France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Mondial et populaire, comment dépasser les frontières de l'histoire de France? Et d'ailleurs, quelle histoire écrire au moment de s'emparer d'un si vaste sujet? Est-ce l'histoire d'un pays ou bien celle d'un peuple? Oh, le joli mot si difficile à manier. Pour le dire autrement, est-ce l'histoire de la France ou celle des Françaises et des Français, ainsi que des gens qui sont passés par là, parfois qui s'y sont installés, voire qui sont partis ailleurs? Nouvelle, populaire, mondiale, sociale, économique, urbaine, rurale, dessinée, illustrée, il y a tant de manières de la qualifier. Et vous, quelle est votre France?
Il revient à ma mémoire des souvenirs perdus.
La France, au long de la fraternité, où les historiens ont vanté la France.
Il revient à ma mémoire des souvenirs perdus.
De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France.
Ma France à moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêve, elle vit en troupe, parle de bled et déteste les règles. Elle.
La France, la France.
Ma France.
Douce France.
Mais mon papa, lui, pourtant, se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle.
Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais. Car elle ne te veut pas pour modèle.
Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde. Celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge.
Ma France.
Je t'ai gardé dans mon cœur.
Thomas Beau qui s'est emparé de, entre autres, Diane Jean Ferrat, Black M. Thomas Beau qui réalise le cours de l'histoire sur France Culture pour cette évocation de la France. Patrick Boucheron, bonjour.
Bonjour.
Patrick, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire des pouvoirs en Europe occidentale. Et puis il y a Allons-y voir aussi tous les dimanches à 14h sur France Culture. Et vous êtes l'auteur de l'histoire mondiale de la France avec cette nouvelle édition qui vient de paraître au Seuil. Et bonjour Gérard Noiriel.
Bonjour.
Gérard Noiriel, socio-historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous aussi une voix. Ce sont toutes ces chroniques dans le cours de l'histoire, bien sûr. Avec le peuple français, histoire au singulier et polémique au pluriel, c'est publié chez Talendier. Patrick Boucheron, mais je commence tout de suite, je mets les pieds dans le plat.
Oui.
Une définition de la France?
Ouais. J'en suis pas l'auteur d'abord, hein. Vous avez dit auteur de l'histoire mondiale de la France.
Vous l'avez dirigé,
très
c'est
modestement,
vrai.
Je l'ai dirigé avec Florian Mazel, Nicolas Delalande, Yann Potin et Pierre Sangaravelou. Et alors, confidence pour confidence, est-ce que je peux vous en faire une au départ? Moi, je suis un historien de l'Italie, tout ça ne m'intéressait pas tant que ça. Et je crois qu'à un moment donné, je me suis dit que, parce que j'ai des pratiques historiennes, et puis j'ai aussi des engagements citoyens, comme vous, Gérard Noiriel, mais sauf que les miennes ne sont pas alignées, enfin là, je travaillais sur autre chose. Et je me disais, c'est peut-être un peu inconséquent de laisser ces sujets-là, la question de l'identité, la question de la continuité, depuis quand la France, qu'est-ce que c'est que la France, voilà, à des narration qui pouvait être entraînante, mais qui se délivrait au fond des règles de la méthode. Alors voilà, moi, le livre dont j'ai à parler est un livre collectif qui tente de réenchanter d'une certaine manière le récit en tentant de maintenir quand même le cap d'une histoire critique.
Avec du monde, hein, on peut le dire. Hein,
il y a 150 personnes.
150 personnes et évidemment les meilleurs spécialistes de chaque sujet. Gérard Noiriel, vous savez, dans notre histoire, on a longtemps eu des rois de France, et puis au 19e siècle, ils deviennent les rois des Français. On dit toujours l'histoire de France, pourquoi ne dit-on pas l'histoire des Françaises et des Françaises? Vous, vous proposez le peuple français.
Oui, disons que c'est effectivement, par rapport à ma propre démarche, qui est, on y reviendra sans doute tout à l'heure, puisque dans, Patrick Boucheron évoque dans son introduction le rapport à Nora, le rapport à Michelet, etc. Et je dirais que moi, quand j'ai commencé ma carrière dans les années 80, il y avait aussi cette espèce de réflexion critique par rapport aux logiques identitaires et au rôle que les historiens et les historiennes peuvent jouer là-dedans. Et moi, la solution, ça a été de me tourner vers la sociologie. Hein, voilà, pour revenir, alors on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais sur l'apport critique que la sociologie peut fournir par rapport aux logiques identitaires. Et effectivement, donc, de ce côté-là, ce qui était lié aussi à mes engagements de chercheur, c'est du côté du populaire, mais on y reviendra peut-être dans la définition de ce terme, que je me suis tourné, et donc plutôt une approche en termes de peuple. Quels sont les individus c'est Norbert Elias, la société des individus, comment des individus font société, et donc font nation quelque part. C'était ça un petit peu la démarche dans laquelle je me suis lancé et que je développe dans ce livre-là par rapport aux usages politiques réactionnaires, le plus souvent, de la nation du peuple, ce qu'on appelle aujourd'hui péjorativement le populisme. Mmh. Donc là, il y a un enjeu qui effectivement touche aussi aux questions civiques de l'histoire, la fonction sociale de l'histoire, comme disait Marc Bloch.
Oui, au fond, écrire sur le peuple contre le populisme, écrire sur la nation contre le nationalisme, avec une forme de patriotisme, mais qui est délivrée, en somme, du nationalisme agressif. Je pense que c'est ce que, au fond, les historiennes et les historiens aujourd'hui requis. Vous le dites, par l'urgence du moment, quel que soit au fond leurs choix initiaux ou leurs préférences professionnelles ou stylistiques, eh ben, sont amenés à faire. Et c'est pour cela, effectivement, que se multiplient ces livres aujourd'hui, dont certains, au fond, comme le nôtre, par l'écriture, alors c'est pas les mêmes, évidemment, c'est pas la même manière de faire, tentent de réconcilier. En fait, c'était ça, Histoire mondiale de la France, donc c'est un livre ancien, hein, 2017 hein, déjà, le titre même, peut-être un peu oxymorique, tentait de dire qu'on n'a pas à choisir, en somme, entre l'histoire de au grand large qui nous a fait rêver, Gérard Noriel, hein, vous parlez effectivement de Fernand Braudel, etc., et l'histoire vécue, l'histoire de celles et ceux qui ont fait ce pays, qu'on pouvait les réconcilier.
L'histoire mondiale de la France, vous venez de le dire, c'est 2017. À ce moment-là, ça répondait à quelle urgence? Une urgence autour de tous ces débats qu'il y avait sur l'identité?
Surtout, pour essayer de contrer cette tenaille dans laquelle on tentait de nous enfermer entre l'histoire connectée, qui aurait été chic, et l'histoire enracinée, qui aurait été plouc. Voilà. Et d'une certaine manière, d'abord, c'est une question populaire, Gérard Noiriel, un de nos co-directeurs, Nicolas Delalande, a fait ce grand et beau livre sur la lutte et l'entraide, pour montrer que l'internationalisme, il est ouvrier, d'abord. Et donc, que opposer au fond des élites hors sol à un peuple enraciné, c'est se tromper de foi et surtout, c'est se préparer à des défaites politiques terribles. Donc, au fond, il fallait par la pratique de l'histoire, montrer que l'histoire, elle peut être peuplée, ouverte, diverse et entraînante.
Avec cette continuité, hein, Gérard Noiriel, en plus vous venez de l'évoquer, mais le peuple français, histoire et polémique, c'est dans une démarche très ancienne. Nous le savons toujours, juste un moment de cette très longue histoire, juste un maillon, mais cette histoire s'écrit toujours dans le contexte du moment. Écrire le peuple français aujourd'hui, c'est pas comme écrire comme le faisait Michelet. Il avait d'autres préoccupations.
Voilà, et moi ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui frappe quand même par rapport à la discipline historique, c'est la capacité quand même, le livre qu'a dirigé Patrick Boucheron et en est l'illustration, de rassembler même des gens qui peuvent par ailleurs avoir des démarches ou des orientations, même des nationalités pour le coup, différentes. Et ce qui donne quand même à la discipline historique une capacité de réaction collective qu'on ne va pas trouver forcément, notamment en sociologie. Moi, je suis à cheval sur les deux disciplines. Je peux voir combien ce dont souffre la sociologie, c'est cette difficulté à se rassembler pour faire un front commun. Par rapport pour l'histoire en tout cas, aux usages qui sont faits et qui sont quand même beaucoup martelés aujourd'hui dans les médias. Donc, il y a une sorte de front commun qui est intéressant et qui n'est pas nouvelle non plus, parce que la vie, ça, au grand moment où il fallait défendre la République, il y avait cette histoire de France déjà, donc il y a chaque génération, en fonction des enjeux civiques qui se posent à ce moment-là, c'est ce qui me semble être un côté positif de l'histoire. Alors, le côté négatif, ça va être que parfois il y a une forme de consensus un peu superficiel qui va, Mais je pense qu'il faut distinguer les lieux aussi où on va pouvoir émettre des critiques, c'est le lieu des revues savantes, des ouvrages savants, où là on va pouvoir échanger comme font tous les savants, je dirais, pour aboutir à des connaissances jugées vraies par les pairs, comme on dit, et puis justement ce travail de transmission,
bien sûr.
Public plus large qui s'intéresse à l'histoire.
Faut pas avoir peur, vous parlez des polémiques, faut pas avoir peur des controverses, elles doivent être non faussées, elles doivent être sincères, pas fonctionner sur le sous-entendu, etc., mais d'une certaine manière c'est l'ordinaire de notre métier.
C'est ça.
Mais si on parle de tout cela aujourd'hui, j'imagine que c'est pas totalement sans rapport avec les rendez-vous de l'histoire de Blois, qui est plutôt un moment consensuel, Gérard Noiriel, un moment où effectivement les historiennes et les historiens de métier se réassurent sur leur rôle social. Souvent, ça fait du bien quand même, ça remoralise le métier. Et je ne cache pas qu'en 2017, vous nous parliez de nos intentions dans l'histoire mondiale de la France. La première était là. La première n'était pas dans le titre de rapport sur rapport entre la France et le monde. Non, la première, c'était de dire un collectif d'historiennes et d'historiens de métier, pour la plupart universitaires, peuvent s'adresser directement à un grand public et les intéresser. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'histoire, dès lors qu'elle suscite l'intérêt, qu'elle éveille la curiosité, qu'elle provoque des surprises, c'était ça un petit peu l'idée, et ben, elle se fait plus aisément entendre.
Avec Gérard Noiriel, ce succès qui correspond à l'appétence de la population de l'histoire. Vous l'avez vu avec vos chroniques, vous les avez publiées d'ailleurs sous forme d'ouvrage, parce que il y a ça, il y a ce besoin d'histoire, ce besoin de comprendre, mais la question se pose, quelle histoire? Et la démarche de l'historien, c'est de dire, bah, nous sommes les spécialistes formés, voilà, tenez, nous vous guidons ou nous vous donnons des éléments de réflexion. C'est un peu cette démarche, parce que s'emparer d'un sujet si vaste que la France, ça demande d'avoir beaucoup de recul d'ailleurs et de la modestie.
Oui, c'est sûr. Donc il y a aussi après des approches qui sont liées parfois à notre propre histoire, à notre propre démarche. Après, formation, comme Patrick le disait tout à l'heure par rapport à sa formation initiale autour de l'Italie, etc., qui donne un regard que ceux qui sont, comme ça a été mon cas plutôt, à l'intérieur de l'espace national ne verront pas forcément. Il y a toujours un apport et des limites. Et je crois que si un savant, c'est quelqu'un qui est capable de définir aussi quelles sont ses limites. Donc moi, effectivement, bon, vous savez, je fais aussi un podcast pour France Culture qui s'appelle La Voix des Invisibles, qui essaye de développer cette problématique de l'invisibilité aussi dans le champ de l'histoire. Parce que c'est souvent les, comme on dit, les élites, j'aime pas trop ce mot-là, mais les gens qui ont une forte culture classique, etc., qui ont une capacité à intervenir publiquement, qui vont parler au nom des autres. Donc ça, c'est une question méthodologique. Comment on va faire pour parler de tous ces Français, Françaises, venus d'ailleurs ou du terroir, qui n'ont pas écrit, qui n'ont pas eu leur propre accès à l'espace public, etc. Donc ça, c'est aussi des questions d'ordre méthodologique que j'aborde un petit peu dans ce livre, qui est un livre de synthèse, mais qui est pour moi une dimension centrale de mon travail, ouais.
Patrick Boucheron, la chronologie est au cœur de votre démarche, hein, parce qu'il y a des dates.
C'était le principe.
Bah voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça permet d'évoquer quand l'histoire fait date, hein, sur Arte. Quelle belle chaîne Arte. Ah. On le dira jamais assez. Voilà. Dans la volonté de montrer des choses, de sortir de l'ombre, de rendre visible, il y a les individus et puis il y a les événements aussi.
Alors voilà, moi, le choix de la date, c'est un choix, on va dire, pédagogique, c'est-à-dire pour commencer simplement, de manière non intimidante, de dire, bah, voilà, sans proclamer un programme au départ ambitieux, dire, voilà une date, vous la connaissez ou pas, et voilà ce qu'on peut en dire, on peut la déplacer, voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est au fond disons, une démarche d'accessibilité. Bon, voilà. On l'a fait une première fois en 2017. Depuis, bah, l'histoire progresse. Et comme le disait Paul Veyne, le progrès de l'histoire, c'est étrange parce qu'on a l'impression qu'on avance et que donc, en avançant, on perd des positions. Mais non, elle ne perd pas en arrière ce qu'elle gagne en avant, l'histoire. Elle allonge son questionnaire. Et donc, bah, voilà, il y a toujours des nouvelles choses à raconter. Et donc, on a augmenté notre lot d'histoire. On a augmenté notre lot de dates. On a pris 50 000 ans avant et puis bah, les 9 ans entre 2015 et 2024 après. Et évidemment, c'est un choix. Et c'est un choix narratif. Et il faut dire, bah, là, comme n'importe quel sociologue pourrait le dire, Gérard Noiriel, que décider de voir quelque chose, c'est quand même cadrer et c'est donc faire un hors-champ. Quand vous faites une histoire par date, événementielle, inévitablement, vous allez valoriser des événements, alors militaires, on essaye de pas trop le faire, mais enfin quand même, politique, culturel, voilà. Et donc il faut par raccro, effectivement, rendre cette histoire populaire. Mais on le fait, on l'a fait. Et on l'a, d'une certaine manière, aussi étoffé et épaissi au fur et à mesure des rééditions successives.
Moi, je crois que c'est que l'un des enjeux, justement, c'est de prendre, parce que l'histoire, on pourrait dire chronologique, ça c'est classique par le fait, et de mettre l'accent sur ce qui peut paraître classique pour le dire autrement, le déconstruire.
Pour subvertir.
Parce que du coup, on touche davantage de gens, puisque beaucoup de gens ont un cadre chronologique dans la tête quand ils parlent d'histoire. Et donc, c'est une manière, je dirais, dans le rapport au public, parce que c'est question de réception qui nous préoccupe aussi, comment toucher un public qui n'est pas public de spécialistes. Et donc, quand on a une narration qui fait, voilà, le lien avec la chronologie, effectivement, on peut là avoir un impact plus grand. Donc, c'est, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai pas tellement, j'ai plutôt essayé de trouver des moments de rupture, des moments voilà de où on a l'impression qu'il y a des bouleversements importants, donc en insistant pas mal sur les questions de ce que j'appelle l'infrastructure communicationnelle. Donc voilà, je passe une rupture importante à la fin du 19e siècle, au moment où la, on le sait, ce qu'on appelle la révolution du journal, c'est-à-dire au moment où donc la culture écrite se répand dans les classes populaires. C'est le début de la presse de masse, c'est le début des partis politiques, c'est-à-dire d'un type de démocratie va incarner la République. Et puis, par rapport à aujourd'hui, où j'ai l'impression qu'on vit une nouvelle rupture extrêmement importante avec des bouleversements des systèmes de communication liés aux réseaux sociaux ou au triomphe du numérique, qui nous place aussi, on peut le dire, parfois dans des situations plus difficiles. D'où la nécessité, peut-être, si on veut transmettre nos connaissances, de multiplier aussi les formes d'intervention voilà, auprès du grand public, notamment des jeunes. Notamment des jeunes.
Avec cette histoire mondiale, Patrick Boucheron, en 2017, vous avez connu un succès. Alors, je ne dis pas étonnant, parce que...
Étonnant,
mais quand on prépare un ouvrage, on a envie qu'il soit diffusé et lu au plus grand nombre, mais ça reste, cette parution, un événement presque historiographique. Maintenant, on peut le dire, il y a un moment avec cette histoire mondiale qui apparaît. Et d'ailleurs, je pense que vous le remarquez, depuis la parution de l'ouvrage, le nombre de titres d'ouvrages qui rajoutent mondial dans la lignée de Patrick Boucheron...
Vous ne voulez pas créer une franchise, hein. Voilà, c'est pas ça
non,
la question.
Maintenant,
mais on voulait encourager. Ce que vous dites me fait plaisir, dans l'idée que si ça a pu encourager d'autres à tenter des choses avec l'histoire, quelles que soient au fond ces tentatives, c'est bien. Parce que vous comprenez, on n'écrit pas des livres contre d'autres livres. On n'écrit pas des livres pour en remplacer d'autres. Parce que le remplacement, on y croit, personne n'y croit ici. Non, on augmente la bibliothèque et la curiosité. Et si ça, il y a un élan et un allant, évidemment, c'est intéressant. Alors bon, voilà, effectivement, la question n'est pas de savoir, la question n'est pas du succès ou de la polémique. La question, c'est de l'effet d'entraînement. Par exemple, ce livre, il a été adapté dans 12 à 15 pays différents. Il y a 12 à 15 pays, l'Italie, l'Allemagne, tous européens, sauf l'Angleterre, c'est assez intéressant, qui ont, au fond, qui sont inspirés de ce modèle. Ce modèle, c'est la longue durée et l'histoire par date. On va les rassembler le 11 et le 12 juin pour un colloque au Collège de France pour savoir qu'est-ce que cette histoire mondiale des nations dit de nous aujourd'hui, c'est-à-dire comme le considérer un peu comme un comme un symptôme au fond de prendre des nouvelles, voilà. Au fond, si on fait de l'histoire, Gérard Noiriel, c'est parce qu'on veut prendre des nouvelles du contemporain, voilà, par le passé. Et c'est une manière bien plus que les que l'onde des polémiques, plus profonde, plus structurelle, comme vous dites, de nous rendre contemporains.
Avec ce que vous venez de dire, les ouvrages, on n'efface pas les ouvrages du passé. C'est tout doucement, ça s'accumule avec des corrections, des rajouts. C'est ainsi que s'écrit l'histoire. Et dans la réflexion sur ce qu'est une histoire populaire, l'histoire populaire de la France, Gérard Noiriel, c'est votre ouvrage chez Talendier, il y a l'évocation d'autres historiens qui, eux aussi, ont réfléchi à l'histoire populaire.
In the United States,
aux États-Unis,
the book is called A People's History of the United States, une histoire du peuple.
C'est plus une histoire du peuple qu'une histoire populaire.
Les éditeurs français l'a donné le titre, you know, populaire. For me, the word means history of the ordinary people in the United States.
Cela signifie une histoire des gens ordinaires aux États-Unis.
The goal of the book is to show that
le but de ce livre, c'est de démontrer que justement, il n'y a pas de gouvernement par le peuple.
Of the people in the United States.
Nous n'avons pas un gouvernement pour le peuple aux États-Unis.
The founding fathers did not
d'abord, et je l'explique dans le livre, les pères fondateurs n'avaient pas pour intention de mettre en place une démocratie.
The men who created the Constitution of the United States.
Les hommes qui créèrent la démocratie aux États-Unis en 1777.
Did not want a democracy.
Ne voulaient pas la démocratie.
They wanted a strong central government that would serve.
Ils voulaient un gouvernement fort, centralisé, qui serve les intérêts de l'élite.
Because those 55 men.
Car ces 55 hommes qui écrivèrent la Constitution.
They did not represent the people.
Ne représentaient pas le peuple.
They were slave owners.
Ils étaient propriétaires d'esclaves.
Merchants.
Des marchands.
You know, land speculators.
Des spéculateurs terriens.
Bond holders. And they were afraid.
C'était aussi des actionnaires et ils avaient peur des rébellions.
Howard Zinn, on l'a reconnu, c'est l'auteur d'une histoire populaire des États-Unis. Cet historien des États-Unis publie son ouvrage en 1980. Là aussi, dans ce que nous évoquions, hein, tout doucement, pas à pas, l'histoire se construit. C'est une étape, c'est un moment important.
Effectivement, enfin moi ça a été un peu le point de départ de ma réflexion sur l'histoire populaire, mais en même temps avec une analyse un peu distanciée parce qu'il a son livre, il l'a écrit disons dans les années 70, à grande époque, ou avec un optimisme quand même sur le fait que les universitaires, les intellectuels pouvaient contribuer à peut-être pas révolutionner, mais en tout cas à faire en sorte que nous vivions dans des sociétés un peu moins injustes. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte, il faut bien le reconnaître. Donc au fur et à mesure de mon écriture, l'histoire populaire de la France et de ce livre-là, sur le peuple français, j'ai été amené un petit peu à admettre les acquis, enfin heureusement, de parce que toute cette génération a apporté énormément sur les histoires des femmes, l'histoire de l'esclavage, l'histoire des minorités, etc. Donc ça, c'était de l'acquis, je veux dire. Je voulais pas aller répéter ça, mais il y avait une démarche que j'ai développée qui est une définition du peuple qui n'est pas l'équivalent des classes populaires. C'est en ça un petit peu la différence. Je conçois le peuple au sens politique du terme. Comme on dit, le peuple français, c'est l'ensemble des citoyens, des citoyennes qui forment société dans la France d'aujourd'hui. Et donc, c'est plutôt une relation de pouvoir avec ces dimensions de domination, mais aussi de solidarité. C'est autour de ce fil conducteur que j'ai construit mon travail, ce qui permet aussi d'éclairer des contradictions au sein des classes populaires. Vous voyez, par rapport à une vision parfois un peu hagiographique, vous voyez, de réhabilitation, etc. Bon, ben oui, ce qu'on appelle la domination masculine, elle se déroule aussi à l'intérieur des classes populaires, etc. La question de l'immigration m'a amené à montrer comment la xénophobie, voire le racisme, pouvait se développer aussi au sein des... Donc, vous voyez, c'est un peu cette démarche-là d'analyse des relations entre tous les acteurs, les actrices d'une même société qui m'a mobilisé et que je développe là dans ce livre.
Il faut mettre de la complexité. Patrick Boucheron, c'est cela aussi le travail de l'historienne, de l'historien. C'est face à une lecture linéaire et simpliste du monde, dire ben non, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué.
Bien sûr, et puis il y a cette ambivalence de l'adjectif même populaire chez Howard Zinn qui peut vouloir dire tantôt je parle du peuple, tantôt je parle depuis le peuple ou depuis point de vue populaire, pas au nom du peuple. Ça, c'est autre chose et vous en avez été effectivement l'historien scrupuleusement critique pour démonter justement cette volonté de parler au nom du peuple. Mais je dirais volontiers que mondial, c'est la même chose. C'est-à-dire que le monde dans l'histoire mondiale de la France ne désigne pas un objet ou une échelle, mais un souci, c'est-à-dire une manière d'écrire et une manière, au fond, de compliquer les problèmes. D'une certaine manière... Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi il y a des émissions quotidiennes qui s'appellent le cours de l'histoire? Pourquoi tant d'historiennes et d'historiens vont à Blois? Parce que l'histoire, ça se récite pas, ça ne s'annonce pas. On l'a pas écrite une fois pour toutes. C'est aussi simple que ça. Donc on continue. L'histoire continue. Et c'est pour ça que alors on le fait. Et vous avez raison, Gérard Noiriel, il y a aussi... On a changé quand même. On parlait tout à l'heure de fierté retrouvée des collectifs historiens. Enfin, on fanfaronne moins. Et on n'a pas de raison non plus de s'enorgueillir de ce qu'on fait. Voilà, certains, j'en entends même à vos micros, sont très heureux de ce qu'ils font, tant mieux, on est content pour eux. Mais reconnaissons quand même que ce que l'on fait, ce que l'on produit, eh bien, ne suscite pas des conversions enthousiastes dans la population, des grands déplacements. Non, au contraire, des petites hésitations, des troubles. On cherche pas à convaincre, on cherche à déplacer le regard et à, au fond, troubler quelques certitudes. Voilà, je pense qu'on est plus modeste aujourd'hui.
C'est sûr, parce que l'expérience le montre. Vous savez, moi, j'ai débuté dans les années 80 pour montrer l'importance que l'immigration avait eue notre histoire nationale depuis le 19e siècle. Dans mon livre qui s'appelle « Le creuset français », le premier chapitre s'appelle « Non-lieu de mémoire », qui était une manière de critiquer les lieux de mémoire qui avaient complètement occulté. Vous parlez aussi dans l'introduction de Brodel, son livre sur l'identité de la France.
Bien sûr.
Voit une France toujours restée rurale, enfin enracinée, etc. Donc il y avait là effectivement une démarche critique, et donc j'associe un peu naïvement ces écueils de l'histoire à la montée de l'extrême droite, hein, puisque c'était les débuts du Front National, etc., en me disant que grâce à nos recherches historiques, on allait empêcher ce processus délétère de se développer. Force est de constater aujourd'hui que les limites de notre travail. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas continuer. C'est très important par rapport aux jeunes, hein, aux nouvelles générations, de ne pas quand même leur donner une vision tellement négative, tellement désespérée de notre contribution à la vie sociale, politique de ce pays, que ça va annihiler toutes les bonnes volontés. Non, chaque génération apporte aussi sa propre contribution, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la diversification de l'histoire, aux nouvelles approches, etc. Mais il faut pas non plus trop s'illusionner, parce que si on s'illusionne trop, on peut devenir cynique après. C'est bien ça qu'il faut aussi éviter. Hein.
C'est très juste, parce que l'histoire de l'immigration, il y a un chapitre, évidemment, dans votre livre, Le peuple français, c'est un très bon exemple, parce que tout le monde a très bien travaillé, comme historien, comme démographe, comme géographe, comme sociologue sur l'immigration, faut le reconnaître. Voilà, vous parlez du creuset français, on a été l'un et l'autre acteurs de ce qui est plus qu'un musée, le Musée national d'histoire de l'immigration, qui avait comme objectif au départ de changer changer le regard de la société française sur l'immigration. C'est même dans son statut constitutif. Ça se passe pas tout à fait comme ça, et pourtant on ne doit pas désespérer. C'est désespérant de voir que une si belle historiographie produit si peu d'effets politiques directs, hein, parce que là l'écart est maximum entre le savoir accumulé sur l'immigration et les mensonges au fond qui sont véhiculés par le discours politique, et pourtant il faut continuer. Voilà.
C'est vrai, c'est parce que c'est vraiment un des domaines de la recherche où il y a un consensus de tous les chercheurs. Vous parliez les sociologues, les démographes, les économistes, les historiens, etc. Il y a un consensus sur cette question de l'immigration, et pourtant, politiquement, ça ne se traduit pas, enfin en tout cas au niveau des sondages, etc., des points de vue du grand public. Ça, c'est assez problématique, et il faut une analyse aussi complexe pour voir les réseaux, les relais qui véhiculent ces discours qui n'ont aucun fondement du point de vue de la connaissance. Est-ce que ce n'est pas vraiment contradictoire avec ce qu'on appelle les valeurs de la République ? Parce que parmi les valeurs de la République, il y a quand même la connaissance, la science, le savoir, l'éducation. Et c'est aussi des enjeux majeurs aujourd'hui dans ce qu'on doit défendre.
D'où la nécessité de décrire modestement pour produire de petits déplacements de sens et de compréhension, et pas, au fond, des grandes révélations théoriques. Voilà. Moi, je pense que tout ça vient, et on le fait effectivement différemment, mais avec le même souci de la narration. Parce que finalement, on voit bien que les écritures réactionnaires de l'histoire dont vous parlez, Gérard Noiriel, sont quand même leur force d'entraînement, elle est dans le récit. Elle est effectivement dans cette allant narratif qui va plutôt nous faire dégringoler, parce que c'est ça qui est évidemment frappant avec l'extrême droite, c'est qu'elle est de toute façon le parti de la défaite, et que le défaitisme, le déclinisme lui est constitutif. Donc, on peut pas, si on passe son temps à réagir aux propos des réactionnaires, on est toujours un temps en retard. Et on pense en retard, comme le disait Marc Bloch. D'où la nécessité, effectivement, de produire d'autres récits.
Oui, la question, là, moi, c'est une question aussi que je me suis posée après, disons, un certain nombre d'années, avoir fait des conférences sur critiquant le racisme, montrant toutes les horreurs auxquelles ça débouchait, etc. Et me rendant compte que très souvent, je parlais à un public qui était déjà convaincu d'avance. Et donc, c'est ce qui m'a amené à me tourner vers le spectacle vivant, vers des artistes. Et ça a été dans le cadre de préfiguration du musée de l'immigration sous l'égide de Jacques Toubon, on avait beaucoup réfléchi à ces questions-là. Et moi, une fois qu'on a démissionné, puisque quand Nicolas Sarkozy a créé son ministère de l'identité nationale, tout le comité scientifique de ce musée a démissionné. Et on a créé notre association, qui existe encore aujourd'hui, d'éducation populaire. Ça fait 10 ans qu'on tourne aussi dans les collèges, les lycées, etc., pour justement essayer d'apporter un regard différent sur l'histoire. Parce que je pense que la question des jeunes, c'est fondamental. Donc se tourner vers ce travail-là, c'est aussi une dimension pour introduire une narration qui soit différente de ce qu'on peut écrire dans nos livres.
Avec des spectacles, effectivement, Gérard Noiriel, du spectacle, oui, il y en a.
Oh, dja, dja, y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta katana, dja, dja, genre, en katana, baby, tu l'es ça. Oh, dja, dja, y'a pas moyen, dja, dja. Tu parles sur moi, ya elle, crache encore, ya elle. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Comment tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses.
Aya Nakamura dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique, Timothée Hubert, et tout le monde se déhanche là en régie avec ici Patrick Boucheron, l'évocation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024, dont vous êtes un des 4 scénaristes. L'arrivée d'Aya Nakamura qui sort de l'Académie française et qui, avec la garde républicaine, fait ce spectacle, reste un des gestes artistiques et lourd de sens les plus audacieux de ces dernières années. Moi, je trouve ça fou. Et c'est en écho à ce que nous disions, le spectacle s'adressait au plus grand nombre.
Oui, c'est intéressant parce que cette séquence dont on se souvient, je crois, a été celle qui a été, au fond, la plus insultée par avance et par principe. Et voilà, on a tenu, elle a tenu d'abord, il y avait du courage, parce qu'il faut quand même imaginer que dans le monde qui est le nôtre, Gérard Noiriel, dont vous parlez, le niveau de haine est quand même spectaculaire quand, effectivement, les entrepreneurs de la détestation se mettent à l'organiser. C'est pas seulement que la garde nationale et que Aya Nakamura se rencontraient sur un pont, c'est que la garde républicaine s'écartait et la protégeait. Et allait de chaque côté des danseuses et d'Aya Nakamura pour dire quelque chose, effectivement, à la face du monde, que la République, c'était ça. C'était ceux qui protégeaient tous ces enfants. Bon, voilà. Et encore une fois, il faut penser les deux choses. Il faut effectivement se souvenir du flot de haine et de rancœur que ça a suscité et constater que l'effet, ensuite, après, il se patrimonialise presque d'évidence et puis tout le monde dit « Ah bah oui, mais bien sûr qu'on est d'accord, c'est ça qu'on veut ». C'est ça la France. Enfin, disons, une France en mieux, en plus grand. C'est pour ça que dans l'histoire mondiale de la France, on a demandé à Michel Perrault d'écrire le dernier article, qui est 2024, pour parler de ça, mais pas que de ça, Xavier Mauduit, pour parler aussi de la réouverture de Notre-Dame de Paris et des viols de Mazan, de ces trois événements, qui sont trois événements de l'histoire mondiale de la France, hein, on peut le dire, mais qui, à eux trois, disent l'extraordinaire, quand même, ambivalence et énergie de notre histoire.
Oui, parce qu'il en faut de l'énergie. Gérard Noiriel, vous devez le constater sans cesse. Quand vous évoquez, à raison, et on le voit par des résultats électoraux ou par des sondages, la progression d'idées qui ne correspondent pas aux valeurs de la République, il suffit que l'historien, l'historienne prenne la parole et très vite, les gens disent « ah oui » et nuancent leur propre analyse. Bon, après, très vite, ça revient en arrière face à la violence et à la puissance des réseaux mis en place pour faire changer les esprits. Mais c'est, je veux pas utiliser trop de métaphores guerrières, j'aime pas ça, j'allais dire c'est ce combat, mais c'est pas un combat en fait, c'est cette démarche qu'il faut sans cesse adopter au moment d'étudier le peuple français. Comment vous décidez de l'aborder? Comment raconter le peuple français?
Ben disons que vous savez qu'un des points de départ de ce livre, c'est justement une partie des chroniques que je faisais à la suite de votre émission, dans le pourquoi du comment. Et c'est vrai que souvent, les gens me disaient, enfin, ils étaient un peu frustrés, parce que 3 minutes 30, 4 minutes, évidemment, et puis c'était énormément de travail. Hein, faut pas croire que c'est facile de synthétiser comme ça. Et donc, j'en ai fait plus de 600, et à l'intérieur de ces chroniques, il y en avait qui étaient dans la logique du passé-présent. Et donc, c'est à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je les regroupe, que je les rassemble et que je les réinscrive dans une démarche plus globale avec un fil conducteur qui est celui, justement, de la notion de peuple, pour l'aborder, justement, aussi à partir des stéréotypes ou des discours, des préjugés qui peuvent être énoncés. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris une dizaine d'entrées autour de ces questions. Mais évidemment, comment dirais-je, pour moi, c'est aussi, moi, j'ai toujours eu le souci aussi par respect, disons, pour le public, de distinguer ce qui est un ouvrage de fond et ce qui est un ouvrage de synthèse. Donc là, j'inscris ça comme ouvrage de synthèse. C'est-à-dire, je m'appuie sur des recherches qui ont été faites par beaucoup de collègues, et puis sur mes propres recherches, pour donner une vision un petit peu cohérente qui peut être utilisée après, comme disait Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire un usage. C'est la question d'usage aussi, de ce qu'on écrit, nous, par des gens qui vont, à différents niveaux, les utiliser eux-mêmes par rapport au public auquel ils ont affaire. Et nous, ce qu'on voit quand on transforme alors notre association, elle a pour but de transformer des recherches, disons, dans des spectacles, c'est-à-dire d'écrire, voilà, en faisant appel aussi à l'émotion, voilà, destinée à des publics populaires qui lisent pas nos bouquins. Et on fait des débats après, on voit très souvent, effectivement, comment un certain nombre d'incompréhensions peuvent être levées, ou même parfois par rapport au langage, par rapport à la question, la manière de parler chez les jeunes, parfois, où ils peuvent être, voyez, pris dans des visions qu'on considérera après, soit par exemple la confusion entre juifs et israéliens, par exemple, où évidemment ils vont alimenter sans rendre compte parfois, je ne veux pas généraliser ni excuser qui que ce soit, mais voilà, quand on leur explique aussi ce que c'est qu'un pays, qu'une nation, qu'un gouvernement, et la différence avec un peuple, une religion, etc., on se dit qu'on a un petit effet peut-être positif, mais j'insiste aussi sur le fait que c'est toujours en collaboration avec les enseignantes et les enseignants. C'est fondamental. C'est une des chances aussi, hein, de l'université française, d'avoir gardé des liens aussi avec le monde de l'enseignement, ce qui, on voit bien aux États-Unis où c'est beaucoup plus difficile, où c'est beaucoup plus cloisonné, et donc ce qui crée aussi la difficulté que rencontrent nos collègues aux États-Unis par rapport à des offensives comme celle de Trump. En France, on a quand même la chance de pouvoir tisser des liens comme ça, durables, avec les différentes, je dirais, professionnels qui ont un contact avec les classes populaires, et donc véhiculer comme ça ce qu'on peut nous raconter d'une manière adaptée à ces publics.
Du collège au Collège de France.
Les liens ne sont pas rompus, c'est vrai, vous avez raison, Gérard. Ils ont failli l'être, hein, quand même, à certains moments. Il y a eu un dédain universitaire pour la transmission scolaire, mais aujourd'hui, on comprend que devant la communauté des enjeux et des dangers, il faut se réunir. Et puis, il y a aussi, Xavier Mauduit, tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire, je dirais, cette cet enchaînement qui fait qu'un livre pourra être discuté à la radio, puis dans une librairie, puis dans un festival, qui est, alors là, pour le coup, je veux pas dire une spécificité française, mais enfin, en tout cas, une rareté à préserver. Parce que cette rareté, elle est pas culturelle, elle est pleinement politique. Et elle est même juridique. Enfin, je dirais, elle tient au fil de quelques lois sans lesquelles, de toute façon, moi je suis un historien de l'Italie, je sais effectivement comment voilà, toute catastrophe politique commence par un désastre télévisuel, puis ensuite cinématographique, puis ensuite livresque, et tout peut s'effondrer très vite. Et donc, cette question de l'État, d'un État de droit qui ne tient pas tout seul, qui tient si on tient à lui, si on le défend, ça c'est quelque chose de très important dans ce que vous avez appelé, Xavier Mauduit, sans l'appeler comme ça, la bataille culturelle. Ça repose sur des institutions aussi.
Oui, ces institutions sont attaquées, et l'institution en tant qu'institution telle que nous la définissons peut être attaquée, mais le mode même de fonctionnement de ce monde-là, ce monde de la réflexion aujourd'hui, on le sent ébranlé. C'est-à-dire que le fonctionnement que vous évoquez, des arguments, de la recherche, de la discussion et de la confrontation, aujourd'hui est complètement remis en cause. Gérard Noiriel, Le Peuple Français, Histoire et Polémique. On va vous répondre facilement aujourd'hui. Mais d'accord, mais ça c'est votre opinion. Moi, ce n'est pas mon opinion. L'idée d'opinion aujourd'hui apparaît dans le débat. Et, faut le dire honnêtement, nous sommes assez démunis, désarmés face à cette démarche-là.
C'est évident. Moi, je l'ai vu aussi de par mon expérience depuis les années 80 où j'interviens, disons, j'essaie d'intervenir publiquement pour diffuser des connaissances, même dans nos rapports avec le monde des journalistes. Il y a évidemment des enjeux internes aussi au monde des médias aujourd'hui qui sont très importants, et on voit parfois des chaînes d'infos en continu, etc., qui vous appellent en disant « venez donner votre opinion ». Mais je leur dis, moi, mon opinion, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, la démocratie, c'est chacun a une opinion. Les citoyens, les citoyennes, ils ont le droit de vote, etc. Moi, ce que je viens, c'est présenter mon travail, mes recherches, la recherche de mes collègues, etc. Mais cette notion, c'est pour ça que je m'arrête là-dessus, c'est qu'effectivement, cette notion d'opinion tend à s'imposer. Et donc, on va mettre des gens qui... Alors, c'est des discours qui n'ont pas de sens, puisque de quoi vous voulez vous parler entre... Et vous pouvez être discrédité comme ça, au nom de que vous seriez, enfin pour moi, je crois que Patrick Boucheron a subi ça aussi, traité d'immigrationniste ou traité voilà de quelqu'un qui détruirait la France, ou enfin vous avez toutes ces formes d'insultes là qui visent notre milieu, contre lesquelles faut se défendre. Et je pense qu'au-delà des historiens, tous ceux qui croient encore au principe de base de notre démocratie devraient être solidaires aussi des attaques qu'on peut subir. Et je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment développé.
Oui, ça c'est très difficile parce que au fond on a du mal à faire comprendre que la démocratie c'est pas simplement un régime, c'est une tâche à accomplir et qui ne peut s'accomplir sans l'organisation d'un débat public qui n'est pas faussé par le monopole ou l'autoritarisme. Et donc c'est un bien commun que la science. Aujourd'hui, effectivement, elle est attaquée comme science aux États-Unis, en Argentine et ailleurs, et on peine au fond à mobiliser Gérard Noiriel. C'est-à-dire que parfois, on donne le sentiment de défendre un emploi scientifique et pas au fond la base de la démocratie. Et ça, c'est quelque chose de difficile qui nous oblige de toute façon à la fois effectivement à nous réarmer moralement, mais aussi à nous interroger du point de vue critique.
Oui, parce que ici nous sommes avec, au moment d'écrire une histoire de France, à un moment de cette longue histoire de l'écriture de l'histoire de France. Et quand on regarde la constitution du champ historique comme discipline scientifique, quand on voit comment ça se construit, c'est vrai qu'au 19e siècle, on sent qu'on est en parallèle avec la construction même de la démocratie. C'est pas un hasard, bien entendu. Jules Michelet.
Ce petit livre pourrait aussi bien être intitulé « Introduction à l'histoire de France ». C'est à la France qu'il aboutit. Et le patriotisme n'est pour rien en cela. Dans sa profonde solitude, loin de toute influence d'école, de secte ou de parti, l'auteur arrivait, et par la logique et par l'histoire, à une même conclusion. C'est que sa glorieuse patrie est désormais le pilote du vaisseau de l'humanité. Mais ce vaisseau vole aujourd'hui dans l'ouragan. Il va si vite, que le vertige prend au plus ferme et que toute poitrine en est oppressée. Que puis-je dans ce beau et terrible mouvement ? Une seule chose, le comprendre. Je l'essaierai du moins. Mais il part de haut et de loin. Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France.
Raphaël Lalonde dans Le cours de l'histoire qui nous lisait l'introduction à l'histoire universelle de Jules Michelet, nous sommes en 1831. Raphaël qui a préparé d'ailleurs cette émission avec vous, Patrick Boucheron et Gérard Noiriel. D'ailleurs, Michelet, le peuple, quelle définition du peuple pour Jules Michelet, Gérard Noiriel?
C'est une définition qui est, je dirais, enfin, une conception plus littéraire, hein, plus c'est le personnage du peuple dont lui-même était issu, peuple au sens de classe populaire, voilà. Mais c'est donc dans une problématique qui est celle encore de l'historiographie du 19e siècle. Faut pas oublier que Michelet avait été formé aussi par la philosophie. Et il enseignait, mais je crois, la philosophie au Collège de France. Et c'est très marqué par Hegel, la dialectique hegelienne. Donc quand il dit la France c'est le pays de l'universel, c'est aussi qu'il conçoit cet universel comme une contradiction. C'est-à-dire on devient universel quand on se contredit soi-même. Oui, oui. Et il y a un changement radical quand Renan s'empare de ça au début de la Troisième République, où là on est plus dans une conception statique de l'identité nationale enracinée, etc. Donc c'est bien, je trouvais important de réhabiliter Michelet, tout en, évidemment, ce que vous dites dans l'introduction, en montrant quand même les contradictions par rapport peut-être ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais il y a quand même une dimension, je trouve, progressiste chez Michelet.
Là, c'est le jeune Michelet. On est en 1831, il est à peine... Ce qu'il appelle l'histoire universelle est en fait une philosophie de l'histoire, très inspirée de Vico, etc. Et bien sûr qu'on peut pas tout prendre, c'est pas un slogan, c'est pas un étendard, ce ne serait pas trop du monde pour expliquer la France, parce qu'on prend pas évidemment avec nous au pied de la lettre cette vision, cette personnification d'une France qui éclairerait le monde entier. Mais il y a là effectivement un élan, un allant qui nous a semblé intéressant aussi en exergue de l'histoire mondiale de la France de rappeler pour une raison simple aussi, pour dire que justement il y a une tradition de ces différentes manières d'écrire l'histoire de France. C'est pas seulement, contrairement à ce qu'on pourrait dire, une sorte de mode américaine de la world history qui aurait... il y a effectivement depuis le 19e siècle et ensuite Braudel et les autres, l'école des annales, toute une tradition d'une histoire mondiale qui est aussi européenne et en particulier française.
Avec, pareil, hein, pour l'histoire populaire, nous avons cité Howard Zinn, et puis on pourrait tirer le fil jusqu'à, mais même encore avant, mais il y a l'histoire socialiste de la France contemporaine, enfin, ces histoires socialistes de la France dirigées par Jean Jaurès. Cette idée de s'intéresser à l'histoire de France, simplement en se positionnant en tant qu'historien par rapport à ce qu'on est, sa formation et ses origines, c'est une longue histoire, nous le voyons bien. Écrire le peuple français aujourd'hui, histoire et polémique, le mot polémique apparaît dans votre titre, Gérard Noiriel. Bien sûr, un livre est le fruit d'un moment particulier, il le reflète. Mettre polémique aujourd'hui, c'est parce que ça vous a paru important et on sent que nous sommes dans un moment de polémique.
Bien sûr, parce que il y a effectivement, quand on essaye de trouver une définition objective du mot peuple, on n'en trouve jamais. Donc c'est des usages, comme on dit, des usages politiques principalement. Et donc moi, une des questions que je me suis posée de très tôt, hein, quand je travaillais aussi sur l'histoire du monde ouvrier, notamment en Lorraine, au moment des grandes grèves de la sidérurgie. À l'époque, j'étais moi-même militant de base du Parti communiste et je m'en suis fait, disons, écarté assez brutalement dans mon premier livre parce que je m'interrogeais sur le rôle des porte-paroles. Qui parle au nom du peuple? Donc, qui parle au nom de la classe ouvrière? Et, évidemment, les porte-paroles attitrés n'acceptent guère ce genre de critique. Mais moi, je le faisais. Alors, c'était dans une perspective scientifique, enfin d'analyser concrètement qu'est-ce que ça veut dire parler au nom d'un groupe. C'est là que j'ai été beaucoup influencé par Pierre Bourdieu, par ses travaux sur la violence symbolique, etc. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi un peu dans l'introduction de ce livre. Quand on dit tu fais aussi de la politique, non. Là, il faut être capable de distinguer la critique scientifique et la critique politique. Alors je sais que parfois, évidemment, c'est pas forcément simple, je veux pas, on est toujours un peu sur le fil du rasoir, mais malgré tout, c'est très important de défendre. Parce qu'aujourd'hui, une des menaces qui pèsent sur notre démocratie, c'est la menace qui vise l'autonomie. Hein, l'autonomie des juges est remise en question, l'autonomie aussi des artistes et aussi l'autonomie de nos métiers, tout particulièrement en histoire. Donc défendre l'autonomie de nos pratiques, c'est voilà un des enjeux civiques et donc politiques aussi extrêmement importants.
Patrick Boucheron, vous n'êtes pas porte-parole, vous êtes porte-voix au sens où, à travers l'histoire mondiale de la France que vous dirigez, vous donnez la parole à tant d'historiennes, d'historiens, d'autrices, d'auteurs. Et puis, c'est un peu la même démarche hein, dans vos différentes productions. C'est l'idée de transmission
oui,
que
ça
je
me paraît,
retiens ici.
Oui, bien sûr, ça me paraît fondamental. C'est plus une manifestation, au fond, de l'envie que beaucoup d'historiennes et d'historiens ont de s'adresser directement à la société qu'un manifeste théorique pour je ne sais quelle histoire. C'est Marion Fontaine, par exemple, qu'on a dans les nouvelles dates. Il y en a presque un quart de nouvelles dans cette édition de 2025. C'est Marion Fontaine qui reprend ce thème très classique de l'histoire ouvrière, du 1er mai, de la fusillade de Fourmis. On a rajouté des dates, on pourrait en rajouter plein. Mais parce que, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est de considérer comment, au fond, il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, il y a des nouvelles tendances, histoire environnementale, histoire du genre ». Non, non. C'est-à-dire que des questions classiques l'histoire, enfin, qui sont devenues, qui n'ont pas toujours été... classique, et ça a été un combat quand même d'élargir le territoire de l'historien au mouvement ouvrier, au mouvement social. Mais maintenant, on peut dire que ça fait partie du paysage, et il suffit aujourd'hui, c'est tout à fait frappant, de demander voilà une jeune historienne comme Marion Fontaine de nous raconter à nouveau la fusillade de Fourmis pour voir, c'est pas une révélation, c'est pas une pour voir que notre notre regard a changé inévitablement. C'est ça qui est, au fond, plaisant avec l'histoire, c'est que je serais presque tenté de dire que le temps joue pour nous. Il suffit de jeter un regard neuf sur une question ancienne pour la rajeunir.
Vous savez, Max Weber disait au début du XXe siècle que l'histoire avait la chance d'être une discipline éternellement jeune parce qu'elle renouvelait ses objets et ses regards en fonction des transformations de la société dans laquelle vivaient les historiennes et les historiens. Et cette phrase, elle est très actuelle, effectivement. Oui. C'est ce qui fait que, voilà, l'enrichissement de notre discipline, grâce aussi à l'apport des nouvelles générations. Comme nous-mêmes, on s'est situé à un moment donné par rapport aux précédentes, etc.
Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est-à-dire, voilà. En fait, l'histoire est quand même un savoir un peu sautement cumulatif. On vieillit, on en sait plus, mais on comprend moins. Et où il y a des choses qu'on ne voit pas, inévitablement. Et c'est vrai que l'aspect générationnel ou intergénérationnel est absolument fondamental.
Et puisque nous parlons de génération, il y a ce principe même de la pédagogie qui oblige à répéter sans cesse puisque les générations changent. En tant qu'enseignant, vous le voyez systématiquement, on redit toujours la même chose. C'est de la répétition pour nous, mais ce n'est pas de la répétition pour le public qui reçoit cela. Alors cette répétition, si elle peut être actualisée, c'est encore mieux. Mais c'est ce principe même de la pédagogie.
Oui, c'est ça. C'est effectivement, il faut s'interroger effectivement sur le renouvellement des publics, sur les types de formations qu'ils ont eues, sur l'évolution des médiatiques. Aujourd'hui, c'est le grand problème des réseaux sociaux, de TikTok, etc. Et ce qui pose aussi des questions pour, enfin, si je prends mon cas personnel, d'une forme d'incompétence par rapport à ces nouveaux outils. Et donc, on est bien obligé aussi de tisser des alliances avec des gens qui, eux, vont connaître des manières de faire pour réussir cette pédagogie.
L'histoire mondiale de la France. Patrick Boucheron, l'ouvrage sort en 2017. Là, il sort de nouveau au seuil actualisé. Vous nous avez expliqué, avec toutes ces nouvelles dates, ces nouvelles entrées, cette actualisation répond aussi à quelque chose. Oui. 2017, c'était un moment. Aujourd'hui,
c'est
quels, sont les nouveaux défis?
Il y a eu une autre actualisation entre 2019. C'est assez intéressant parce que on est, quand je disais, le temps joue pour nous, mais un temps moyen et inconfortable. C'est-à-dire 2017, c'est plus aujourd'hui, c'est pas tout à fait patrimonial. On n'a pas eu le cœur de laisser le livre vieillir avec nous en disant bon bah il est daté, c'est un moment et on va défendre la position. Non, on s'est dit voilà, il faut peupler cet entretemps et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez tout à fait raison. Au fond, c'est comme au théâtre. Au théâtre, on joue pour celui ou celle qui, dans la salle, est au théâtre la première fois. Et émerveillé de tout. On joue pas pour une mouette, pour quelqu'un qui a vu toutes les mises en scène de la mouette et qui pourra voilà. Donc l'historiographie c'est assez intéressant, mais ce livre il est paru en 2017. Si quelqu'un le découvre aujourd'hui dans sa nouvelle édition en 2025 et qu'il a 20 ans, bah, il a aucune raison de le connaître.
Et oui, c'est ça. C'est
et donc, ça sera une... voilà.
Ben, je dirais que mon ouvrage sur le peuple français, c'est aussi un petit peu dans une démarche d'actualisation de mon histoire populaire de la France, qui date de 2017-2018, donc la même époque, parce qu'effectivement, les 7 années qui nous en séparent, il y a des moments où l'histoire s'accélère, comme on dit. Hein. C'est parce que c'est une période quand même, on a tous été estomaqués par ce qui s'est produit. Je veux dire que ce soit l'épidémie de Covid, avec cette... qui avait imaginé ça avant, qu'on puisse être en fait, peut-être certains savants, mais la grande majorité des gens n'avaient pas imaginé qu'on puisse être confiné comme ça. Et puis il y a la guerre en Ukraine, avec une guerre qui se rapproche. Donc ce sont ces éléments-là, même de manière un peu autocritique. L'historien n'est pas futurologue, mais on dit parfois qu'il peut dégager des tendances qui peuvent nous permettre de comprendre le présent et puis d'envisager l'avenir. Mais là, il faut bien dire, enfin moi personnellement, que j'étais complètement estomaqué par ces changements-là, et que ça nous ramène à une question quand même sur laquelle je voudrais insister par rapport au thème de la mondialisation. Il y a peut-être eu un certain optimisme par rapport à l'idée qu'on allait vers une société de plus en plus mondialisée, par rapport à une logique des États-nations, et donc du nationalisme, qui est revenu en force, je dirais, depuis quelques années, et qui nous oblige à nous interroger aussi sur ces questions-là.
MeToo, Gilets jaunes, Covid, France-Afrique, 2024, c'est les nouvelles dates qu'on a ajoutées entre 2015 et 2024. Et entre-temps, ce que ça scande, c'est effectivement un grand moment d'inquiétude, de désenchantement aussi, face effectivement à des expressions peut-être un peu trop optimistes d'une société ouverte qui allait régler tous ces problèmes. Voilà. Et vous avez raison, le retour des nations, le retour des frontières, au cœur même de la pandémie de Covid est quand même extraordinaire. Normalement, par définition, une épidémie, ça traverse les corps et les frontières, et là, d'une certaine manière, on s'est raidi sur les nations, et donc c'est pour ça que toutes ces vieilles histoires sont réactualisées. Voilà, on n'en a pas parlé, mais d'une certaine manière, toute cette nos démarches, elles viennent aussi de cette de ce moment au milieu des années 80, où le thème de l'identité de la France vire de bord. Était plutôt un thème, comme Vincent Martigny l'a montré, de la gauche de gouvernement, hein, voilà, de Jack Lang, des politiques culturelles contre l'hégémonisme américain, et qui effectivement se raidit à la fois conceptuellement autour voilà, du livre posthume et inachevé de Braudel, l'identité de la France 86, et puis surtout qui passe à droite.
Eh oui, parce que ici, dans ce que vous évoquez, tous ces événements, nous ne savions pas que ça allait arriver et ça nous a surpris. Et moi, j'ajoute, je me permets une chose, c'est la destruction de la science dans certains pays, en tout cas les critiques apportées à la démarche scientifique qui me laisse moi pantois et sans voix, cette notion de contre-vérité, tout ça. Je vous disais, je suis désarmé, mais le monde est réenchanté par l'histoire, on peut le dire, ça donne des armes. Et c'est pourquoi je vous remercie vivement Patrick Boucheron pour cette histoire mondiale de la France que vous avez dirigée C'est au seuil, Gérard Noiriel, Le Peuple Français, Histoire et Polémique. Merci vraiment beaucoup parce que je vois des messages d'auditeurs, d'auditrices qui vous remercient. Combien, en ce moment, on a besoin peut-être de ce réenchantement par le savoir. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Ben, merci.
Prochain épisode dans le cours de l'histoire des chroniques aux collections, l'histoire en série.
Il est tout à fait vrai que depuis toujours et aujourd'hui, je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand, de très particulier.
Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Lalouma, Jeanne Copet, Solène Roy et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est une émission à écouter, celle-ci mais toutes les précédentes, sur le site internet franceculture.fr et l'appli Radio France.